des livres plein les oreilles.
Bonjour vous toutes et vous tous, Clotilde Saïe au micro de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles qui, comme son titre l'indique, ne se consacre qu'aux livres qui s'écoutent, aux livres audio. Cette semaine, on va découvrir Sans filtre de Mélina Roberge et Claudia Berthiaume, une histoire vraie qui donne froid dans le dos. Ensuite, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman et Stephen King. On va écouter un extrait de Sleeping Beauties. En général, ce sont deux auteurs qui présentent d'excellents exercices pour les traducteurs en herbe et c'est ce que nous dit Jean Hesch, auteur et traducteur de métier. Des hommes sans femmes, c'est signé Murakami. Les ailes collées de Sophie Baer, ça fait partie des livres que je n'ai pas vu passer quand ils sont sortis en studio. Alors là, je me reprends. En seconde partie, on va faire un petit clin d'œil aux cabanes à sucre qui doivent encore faire le plein, me semble. Parlant de sucre, j'apprends beaucoup sur le glucose en ce moment. Ça, c'est sur ma table de chevet et je trouve que c'est suffisamment intriguant. Ben, pour vous en parler, ma foi, surtout que ça se lit et que ça s'écoute. On va finir avec des nouveautés qui, cette fois-ci, ne m'auront pas échappé, signées M.L. Stidman, Marie Vareille et Serena Giuliano. C'était il y a quelques années, cette nouvelle-là a fait le tour du monde. Elle s'appelle Mélina Roberge, cette fille est née à Granby. Au moment où les faits se sont déroulés, elle était âgée de 22 ans. Elle s'est fait épingler pour trafic de drogue sur un luxueux navire de croisière, alors que ce monstre des mers accostait à Sydney, en Australie. Il y a également deux autres Québécois, une jeune femme et un homme plus âgé qui ont été arrêtés au même moment par les autorités australiennes. Elle a quand même passé 5 ans en prison pour ça. Ça fait réfléchir, hein? 6 ans après les faits, Mélina Roberge a pris sa plume, elle est revenue sur les événements, elle a demandé à Claudia Berthiaume de lui prêter sa plume également et elles ont raconté à quatre mains tout ce qui a d'abord mené à son arrestation et la suite. Alors évidemment qu'elle revient sur les choix qu'elle a fait, les mauvais choix et sur l'engrenage dans lequel elle s'est laissée prendre. Elle se pose toutes sortes de questions, comme par exemple, comment la jeune femme qu'elle était a-t-elle pu en venir à jouer la mule pour des narcotrafiquants? Comment l'appât du gain facile, mais plus encore, le besoin effréné d'attention qu'elle poursuivait sur les réseaux sociaux, l'ont-ils amenée à mentir à sa propre famille et à se berner elle-même? Mélina Roberge bat sa coulpe après 5 ans de prison, je pense qu'elle a eu le temps de le faire. Elle se livre ici sans artifice et elle veut sensibiliser la population au mirage des réseaux sociaux et aux effets potentiellement désastreux que peut entraîner la course aux likes. La voici dans l'extrait alors qu'elle est en Australie et que on frappe à sa porte.
Isabelle et moi nous préparions dans notre cabine lorsque nous avons entendu cogner à la porte. J'ai déposé mon fer-plat pour aller ouvrir. Je suis tombée nez à nez avec 2 douaniers canadiens, un homme et une femme. Mon cœur battait la chamade. Ils cherchaient Monsieur M. À l'origine, celui-ci devait se trouver dans cette cabine. Mais Isabelle et moi avions fait changer les enregistrements afin d'être ensemble. Les douaniers nous ont demandé si nous le connaissions. Nous avons répondu que nous ne savions pas où il était. C'était probablement la seule chose qui était vraie de toute cette discussion. Pressés de questions, nous avons dû improviser. Nous avons expliqué aux douaniers que nous étions plusieurs à avoir profité d'un rabais sur la croisière, ce qui expliquait que nous étions tous partis en même temps de Montréal. L'expression faciale de nos interlocuteurs en disait long sur la crédibilité de nos explications. De toute évidence, ils ne nous croyaient pas, mais ils avaient plutôt l'air d'aller à la pêche. Je ne crois pas qu'ils connaissaient le fin mot de l'histoire. S'ils avaient eu des preuves que nous prenions part à un complot, ils ne nous auraient pas laissé demeurer à bord. Les douaniers m'ont demandé qui avait payé pour la croisière. J'ai dit que c'était mon cadeau de fête en avance, de la part de Julien. Quand j'y repense, c'est tellement ridicule. Il m'aurait offert un voyage à 20 000 $ autour du monde sans lui. Je n'avais aucune réponse toute faite. Alors j'employais la même tactique qu'avec mes parents lorsqu'ils me posaient trop de questions. Des réponses courtes, peu de détails. J'espérais m'en tirer aussi facilement, mais les douaniers étaient plus tenaces que mes proches.
Combien ça coûtait, la croisière?
Aucune idée. Mon chum me l'a pas dit. C'est un cadeau, ai-je répondu.
C'est quoi le nom de ton chum?
Julien. On aurait dit qu'il n'allait jamais lâcher prise. Si c'était Monsieur M qu'il cherchait, pourquoi nous posait-il autant de questions à nous? Avec le recul, c'est probablement parce que nos histoires ne tenaient pas la route et que leur instinct d'enquêteur les poussait à investiguer. En regardant dans notre cabine, par-dessus nos épaules, ils ont remarqué qu'Isabelle et moi avions chacune un sac gris fleuri. Nous avions aussi la même montre au poignet gauche. Les douaniers nous ont questionnés là-dessus. Ce n'est pas un crime d'avoir les mêmes goûts, il me semble. À force de pirouettes et d'adresses, nous avons réussi à trouver des réponses à la fois vagues et plausibles. Ma montre, c'est le joaillier qui me l'avait donnée. Avant le jour de notre départ, j'ignorais toutefois qu'il en avait offert une identique à Isabelle. Je l'avoue, ça pouvait sembler suspect. Pour ce qui est du sac fleuri, nous venions de nous le procurer en Irlande. Il n'y avait vraiment rien de louche là-dedans. Les douaniers ont fini par partir, mais je ne me sentais pas bien. C'est là que j'ai eu un mauvais pressentiment. Le premier d'une longue série. Le pressentiment que je ne m'en sortirais pas. Je commençais à paniquer. Isabelle a essayé de me rassurer. Mais au fond, je pense qu'elle savait que ça n'augurait rien de bon. Le doute s'est installé à Sydney, Nouvelle-Écosse, et nous avons été arrêtés à Sydney, Australie. Quelle ironie. On était dans notre pays, alors c'était facile pour les autorités de nous renvoyer chez nous. Allez hop, un aller simple. Isabelle et moi sommes allés prendre un café en ville. En marchant dans la rue, nous gardions le silence. C'était lourd comme atmosphère. Nous avons alors croisé une voiture. Les deux douaniers qui nous avaient questionnés en matinée s'y trouvaient. Ils se sont stationnés à proximité de nous. Merde, merde, merde. Ça y est, c'est sûr qu'ils nous arrêtent.
Et effectivement, elles ont été arrêtées. Cette histoire de Mélina Roberge, Claudia Berthiaume, éditée par les éditions du Journal, c'est lu par Frédéric Dufort. Vous trouvez ça notamment sur le catalogue de Nara.audio. Nara. Avec deux R, point audio. Vous savez que ça, c'est la plateforme québécoise qui offre la possibilité d'écouter des livres francophones, des livres d'ici et des livres d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai trouvé un papier intéressant sur la traduction, un papier, c'est écrit par Nicolas Gary, mais qui a fait une interview avec, comment il s'appelle, Jean Hesch. Jean Hesch est un auteur, mais c'est un traducteur aussi. Vous savez, généralement, les auteurs, ils ont bien du mal de gagner leur vie avec leurs livres. Alors, la traduction est un très, très bon moyen pour eux de s'en sortir. Sauf que c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. Et le papier est très, vraiment intéressant. Ça s'appelle « Les 10 livres qui m'ont appris ». Le métier, Jean Hesch, l'atelier d'une vie de traducteur. Alors, il explique que oui, ça a commencé par l'école Harlequin. Vous savez, la série Harlequin, ce sont, je pense que tout le monde connaît, hein, ces livres faciles à lire, très bien. Mais il nous dit, vous savez, que c'est une école assez exigeante. Il dit, c'est là, moi, où j'ai appris mon métier. J'y ai appris à traduire, c'est-à-dire à faire des liaisons entre les paragraphes, à m'éloigner un peu du texte et sincèrement, tout a commencé là-bas. Il dit aussi, ce fut une formation serrée, presque artisanale, où le texte passe par des reprises, des commentaires, des allers-retours, des exigences de collection. Eh oui, l'apprentissage ne se résume pas à une technique, il passe d'emblée par une relation, qui est la relation entre l'auteur et l'éditeur et le traducteur. C'est complètement fou. Après, il a commencé avec des livres plus ou moins polars, ensuite, et plus ou moins connus. Malheureusement, ce sont des livres dont je ne vous parlerai pas là comme ça parce qu'on ne les trouve pas en audio. Après, il est allé dans quelque chose d'un petit peu plus réjouissant, qui ne se trouve pas non plus en audio, mais dont il dit traduire un livre drôle n'est pas un supplément d'agrément, c'est une épreuve de traduction. Il ne suffit plus de rendre un sens exact, il faut retrouver l'effet, le tempo, la mécanique. Mais le grand tournant de sa carrière de traducteur s'appelle « Les Royaumes du Nord » de Philip Pullman, avec, comme il le dit, un changement d'échelle manifeste. Oui, tu peux faire un livre de 600 pages déjà, m'a-t-on dit, et on m'a confié ce livre de 600 pages. Et c'est là où il dit, là j'ai appris ce que c'était que de porter un univers. Jean Hesch dit des Royaumes du Nord qu'il fut vraiment important, ce bouquin, cette série d'ailleurs, parce que c'est le bouquin dont je me disais, si un jour j'ai un enfant, il pourra le lire. Et là, c'est un horizon tout d'un coup qui s'ouvrait. Tout traducteur travaille pour une maison, un calendrier, un catalogue, mais avant tout avec des livres qu'il aimerait transmettre. Eh bien, les Royaumes du Nord se retrouvent en audio, il doit en être très fier, surtout quand c'est lu par nul autre que Thierry Lafronde lui-même, que vous avez peut-être connu, qui est une série. Je ne sais pas si c'est passé au Québec ou pas, mais le Thierry Lafronde, qu'on a bien connu, nous, en Europe, s'appelait Jean-Claude Drouot. Alors, je réentends cette voix avec grand plaisir dans un extrait de « Les Royaumes du Nord ».
J'espère que tu seras assise à côté de moi pendant le dîner, dit Madame Coulter en faisant une petite place à Lyra sur le canapé. Je ne suis pas habituée au cérémonial d'une réception chez un maître. Il faudra que tu me montres quel couteau et quelle fourchette utiliser. Vous êtes une érudite ? Demanda Lyra. Elle considérait les érudites avec un mépris typique de Jordan College. Ce genre de personnes existait, certes, mais on ne pouvait pas les prendre plus au sérieux, les pauvres, que des animaux dressés pour exécuter un numéro. Toutefois, Madame Coulter ne ressemblait pas aux érudites qu'avait pu rencontrer Lyra et certainement pas aux deux autres invités de la soirée, ces vieilles femmes à l'air sévère. En vérité, Lyra avait posé cette question en s'attendant à une réponse négative, car Madame Coulter possédait une telle élégance que la fillette était comme envoûtée. Elle ne pouvait la quitter des yeux. « Non, pas vraiment, » répondit la jolie femme. « J'appartiens au collège de Dame Anna. Cependant, la majeure partie de mon travail se déroule en dehors d'Oxford. Mais parle-nous plutôt de toi, Lyra. As-tu toujours vécu ici, à Jordan College ?» En l'espace de 5 minutes, Lyra lui avait tout raconté de son existence à moitié sauvage, ses itinéraires préférés sur les toits, la fois où, avec Roger, ils avaient capturé et fait griller un corbeau, son intention de voler une péniche aux gitans pour naviguer jusqu'à Abington, etc. Elle lui raconta même, en jetant des regards à droite et à gauche et en baissant la voix, la farce que Roger et elle avaient faite dans la crypte avec les crânes. On était passés à table entre-temps et, comme Madame Coulter l'avait espéré, elles étaient assises côte à côte. Ignorant totalement le bibliothécaire assis de l'autre côté, Lyra discuta durant tout le repas avec Madame Coulter. Quand les dames se retirèrent pour le café, Dame Anna demanda « Dis-moi, Lyra, vont-ils t'envoyer à l'école ?» La fillette parut déconcertée par cette question. « Je ne sais pas, répondit-elle. Probablement pas, ajouta-t-elle par mesure de prudence. Je ne veux pas leur causer de tracas ni de dépenses. Il vaut sans doute mieux que je continue à vivre ici pour recevoir l'enseignement des érudits quand ils ont un moment de libre. Étant donné qu'ils sont déjà sur place, c'est plus pratique. Ton oncle Asriel a-t-il des projets pour toi ? Demanda la seconde femme, qui était une érudite de l'autre collège de femmes. « Oui, dit Lyra, je suppose, mais ce n'est pas pour m'envoyer à l'école. Il va m'emmener dans le Nord, la prochaine fois qu'il ira. »« Oui, je me souviens qu'il m'en a parlé, dit Madame Coulter. » Lyra tressaillit, les deux érudites se redressèrent sur leur siège très légèrement, mais leurs démons, qu'ils fussent bien élevés ou assoupis, se contentèrent d'échanger un regard. « Je l'ai rencontré à l'Institut Arctique Royal, » précisa Madame Coulter. « À vrai dire, c'est un peu à cause de cette rencontre que je me trouve ici, aujourd'hui. »«
Vous êtes exploratrice ?» demanda Lyra.
« Oui, d'une certaine façon. Je suis allé plusieurs fois dans le Nord. L'année dernière, j'ai passé 3 mois au Groenland pour observer l'aurore. » Et voilà, plus rien ni personne d'autre n'existait désormais aux yeux de Lyra.
les yeux fixés sur Madame Coulter, avec une fascination respectueuse, elle l'écoutait raconter ses histoires où il était question de construction d'igloos, de chasse aux phoques et de négociations avec les sorcières de Laponie.
C'est très très bon. Les royaumes du Nord, et non, ce n'est pas fait que pour la jeunesse. Je connais plein d'adultes encore et qui lisent aujourd'hui même cette série, ce livre-là. Les royaumes du Nord. On continue avec Jean Esch et sa poursuite de cet article sur le métier de traducteur. Et après ça, il dit, on arrive à traduire le prestige sans s'y perdre. Et l'épreuve ultime, c'est qui ? C'est Stephen King. On aboutit au maître de l'horreur comme un accomplissement dans le milieu des traducteurs, semble-t-il. Stephen King, la proposition m'arriva comme un coup de tonnerre tombé du ciel. Elle s'inscrivait dans une relation déjà installée. L'échange se poursuit sur le mode de la connivence. Tu connais Stephen King ? Non, non, mais tu connais son œuvre, tu connais son style. La tentation du projet l'emporte, un cadeau qu'on ne veut pas refuser. En quelques phrases, tout se met en place. Le désir du traducteur, la proposition éditoriale, la reconnaissance d'une affinité ancienne et ici la relation avec l'éditrice qui n'entoure pas le livre. Elle fait partie de l'événement même et elle vient, cette aventure-là vient avec une leçon nouvelle, ne pas se laisser écraser par le prestige à rester au service d'un texte singulier. Un petit résumé de Sleeping Beauties et puis un extrait.
Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète. Une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil, et si l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses. Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ? Ou créature démoniaque. La mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ? Après avoir menotté la femme, Lila l'enveloppa dans la couverture de survie qu'elle conservait dans son coffre et l'aida à s'asseoir sur le siège arrière. En même temps, elle lui récita ses droits. La femme, muette maintenant, un sourire rêveur ayant remplacé son grand sourire éclatant, s'était laissée faire, mollement, quand Lila l'avait prise par le bras pour la guider jusqu'à la banquette de la voiture de patrouille. Arrestation effectuée et suspect maîtrisé en moins de 5 minutes. La poussière soulevée par les pneus du véhicule de police n'était pas encore retombée que Lila se dirigeait déjà à grands pas vers la portière du conducteur.
« Les observateurs de Phalène, on les appelle les Moths, Phalène, et Mothers, Mères. Mothers ?» Écrit comme les mères, mais ça se prononce pas pareil.
Lila faisait demi-tour pour redescendre Balls Hill et retourner en ville quand sa prisonnière lui livra cette information. Elle croisa dans le rétroviseur les yeux de la femme qui la regardait. Elle avait une voix douce, mais pas particulièrement féminine. Son élocution trahissait une sorte de divagation et Lila n'aurait su dire si cette femme s'adressait à elle ou si elle parlait toute seule. « La drogue, pensa-t-elle. PCP, presque à coup sûr. Ou bien kétamine. « Vous connaissez mon nom, » dit Lila. « On s'est déjà vu ?» 3 possibilités. Une réunion de parents d'élèves, peu probable mais possible, le journal, ou bien elle l'avait déjà arrêté au cours de ses 14 dernières années et ne s'en souvenait pas. Elle misait sur l'hypothèse numéro 3.
« Tout le monde me connaît. » répondit Evie. « Je suis une sorte de hit girl. »
Ses menottes cliquetèrent lorsqu'elle leva une épaule pour se gratter le menton.
« Une sorte hit et girl. Moi, moi et moi. Le père, le fils et la sainte Ève. Ève, le diminutif de evening. Le moment où on s'endort tous. Pas vrai ? Mother, pigé, comme une mère. »
Les gens n'avaient pas idée de la quantité d'absurdité que vous deviez supporter quand vous étiez flic. Le public louait les agents de police pour leur courage, mais personne ne saluait jamais la force de caractère nécessaire au quotidien pour endurer ces conneries. Si le courage était une excellente qualité chez un policier, une résistance innée au baratin était, aux yeux de Lila, plus importante encore. Voilà pourquoi il lui avait été si difficile d'attribuer le dernier poste vacant d'adjoint. C'était certainement pour cette raison qu'elle n'avait pas retenu la candidature du type de la fourrière, Frank Guéry, et recruté à la place un jeune vétérinaire nommé Dan Treater, bien qu'il n'ait quasiment aucune expérience. Même si, à l'évidence, Guéry était intelligent et savait s'exprimer, son dossier était trop épais. Il avait généré trop de paperasse, rédigé trop de PV. Le message caché était annonciateur de conflits. Guéry n'était pas le genre de type capable de passer l'éponge sur les petites conneries. Mauvais.
Je l'ai lu, celui-ci, de Stephen King, Sleeping Beauties. Je l'ai lu parce que j'avais lu quelques critiques où l'on disait qu'il y avait beaucoup moins d'horreur que dans d'autres. Et je confirme que dans cette brique, qui fait quand même 27 heures, parce que 28 heures d'écoute, c'est beaucoup moins sanguignolant que dans certains autres de ses livres. Et en plus, il y a beaucoup plus de poésie et énormément de féminisme. Et oui, parce que là, bon, tout ce qui arrive à ces femmes-là, c'est pour que les hommes vivent sans femmes et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose. Non seulement ça, mais qu'en plus, ils finissent tous sans les femmes par s'entretuer. C'est ça, le cœur du bouquin. Et c'est écrit à quatre mains par le père et le fils King, c'est-à-dire Stephen et Owen. Un livre qui m'avait échappé, ben oui, ça arrive, hein, il y en a, je ne les vois pas passer. Celui-ci, c'était en 2023, ça s'appelle « Les ailes collées ». Ça a reçu le prix Maison de la Presse 2022. C'est écrit par Sophie Debert et c'est une histoire d'amour, de jeunesse homosexuelle, mais qui n'a jamais été vécue entre Paul et Joseph. Sa poésie à Paul, c'était Joseph. Et Joseph n'était plus là. Et il se demande, le jour de son mariage, Paul, qui finalement ne semblait pas homosexuel, ou du moins peut-être que le livre nous le révèle, il met un mouchoir là-dessus. Bref, il se marie. En fait, il se marie peut-être avec un homme. Voyez-vous, quand je ne peux pas tous les lire, ben c'est ça. Parfois, je peux avoir des questionnements comme vous, et c'est normal. Mais bref, il se demande, est-ce que je suis passée à côté de ma vie? Et là, tout d'un coup, pouf, le passé remonte. L'été 1983, celui des débuts flamboyants et des premiers renoncements, et celui de la violence. En voici un extrait de « Les ailes collées » de Sophie Debert. C'est lu par Bernard Gabet.
Richard le malmenait depuis des années. D'ailleurs, Richard n'était tendre avec personne. Il se moquait de tout le monde, y compris de ses amis. Paul n'a jamais compris le plaisir que peuvent prendre les jeunes mecs à se chercher en permanence. Sous couvert d'humour, le sifflement de la haine peut bien se répandre. Qui aime bien châtie bien. Et interdiction de se plaindre ou d'exiger des excuses, il ne faut pas montrer qu'on est touché et prendre le risque d'être exclu de la bande. Tout doit glisser, c'est ça, être un dur. Prendre des coups et en rendre, faire de bons mots aux dépens des autres. Les heures de cours s'égrenèrent. Toujours cette date à souligner en rouge, ces fiches de renseignement débiles à remplir, nom, prénom, profession du chef de famille. De quelle famille parlait-on? On se foutait de lui. Paul sortit son typex de la trousse et effaça le dernier mot. Joseph plaisait. Aux filles, aux garçons, aux professeurs. Il représentait et il était le mec cool, libre et original. Sa manière d'être un peu plus garçon que lui, ses gestes, ses expressions. Paul aurait tant voulu les garder et les reproduire. Même tamiser, être ne serait-ce que son brouillon. Il était une fois une fin d'après-midi, après les cours. Richard, Yvan, Eddie et un autre connard dont Paul a depuis oublié le nom le suivirent jusqu'à chez lui. Quelques dizaines de mètres avant la maison, comme souvent, ils finirent par l'attraper. Mais ce coup-ci, ils avaient une nouvelle idée en tête. Le zip de la fermeture éclair. Leurs mains sous la doublure pour avoir plus de prise sur le cuir. Paul les entendait déglutir, s'appliquaient dans leur ouvrage. De grandes lézardes, du bas vers le haut, de la pointe de leur couteau suisse et de leur compas, ils entaillaient le cuir neuf de son blouson. Un aviateur noir offert par ses parents pour ses 15 ans. Paul ne voyait plus rien, il était sous le choc. Ce n'étaient pas les insultes, ni le blouson. Non. Paul était sidéré car aucun d'eux ne tremblait. Les quatre garçons se trouvaient là, à une distance ridicule de ses parents et de ses voisins, dans un recoin de sa propre rue. La lumière oscillait entre chien et loup, on pouvait facilement les voir ou les entendre et pourtant ils n'avaient pas peur. Ils se sentaient autorisés à exposer leurs canines de prédateurs et le feu dans leur ventre. Ils savaient déjà que le PD ne crierait pas, qu'il ne chercherait pas secours. Et même, il se délectait de son mutisme. Il le tenait. Leur faim, c'est tout ce qui comptait. Peu après, quand ils le laissèrent, son corps rétracté contre le local à poubelle, le jeune Paul défit ce qu'il restait de son blouson et le jeta dans les ordures. Une fois rentré à la maison, il raconta à la mère qu'il l'avait égaré. « Quoi ? Tu sais jamais garder les belles choses. Faut toujours que tu perdes ou que t'abîmes. » Paul fut privé de sortie pendant 10 jours.
Ouais, sujet pas facile, les ailes collées de Sophie Debert, lue par le merveilleux Bernard Gabet. J'aime tellement ce type, je suis complètement accrochée à ses mots. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. C'est sorti en 2023. Évidemment, c'est un petit peu le... Souvenez-vous, il y a 2 semaines, peut-être 3, nous avions parlé avec Gérald Cousineau de vous parler de mon fils, de Philippe Besson. Oui, c'est terrible. La jeunesse, les jeunes entre eux commettent parfois des choses et des exactions qui peuvent nous coller à la peau toute une vie. Voilà pour Les ailes collées de Sophie Baird, lue par Bernard Gabet. Je vous rappelle que vous écoutez le balado des livres plein les oreilles, directement des studios de Canal M qui produit cette émission-là et je les en remercie. Je vous retrouve d'ici quelques minutes, le temps de quelques petites pauses de chez nous. Et puis tiens, on va faire un tour dans les cabanes à sucre. C'est pas fermé les cabanes à sucre? Est-ce que c'est fermé? Non? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va en parler. Allez, à tout de suite. Des livres pleins les oreilles, ça s'écoute et ça se goûte. Alors, vous êtes vous ? Écoutez. Ah, j'aime assez ça. J'aime tellement ça. Je ne sais pas si vous êtes sucré le bec ce printemps, mais en tout cas, j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil. Surtout si peut-être après vous êtes sucré le bec, vous avez connu un espèce de pic de glucose épouvantable. diable et qui, une fois redescendre, vous a fait tomber dans les miasmes de la fringale, de la désespérance, de la dépression. Mais oui, parce que vous savez que souvent, c'est ça qui nous arrive. Je ne parle même pas des personnes diabétiques. Quand on se fait des pics de glucose, ce que ça fait sur le cerveau et sur le corps, c'est que ça redescend aussi vite que ce que ça a monté. Et quand ça redescend plus profond, plus creux que là où on était au moment d'avoir la fringale, quand on a mangé le sucre, autrement dit le glucose. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis savante dans le domaine, pas en toutes mes amies. Mais je suis tombée sur une entrevue d'une jeune femme qui s'appelle Jessie Inchospé, qui est une Française qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui est une biochimiste et qui a lancé sur le marché il y a quelques années un livre, et puis depuis trois, qui s'appelle « Faites votre glucose révolution ». Et qui nous rappelle que le glucose est donc cette molécule qui a un impact énorme sur notre santé, qui pénètre dans notre organisme par les féculents, par les aliments sucrés, tout ça, bref, tout ce que nous mangeons de sucré. Et au cours des 5 dernières années, les scientifiques ont découvert que le glucose affecte tout le monde, pas les personnes atteintes seulement de diabète. Si nous avons une glycémie trop élevée, notre peau, par exemple, peut se couvrir de boutons, mais surtout, on peut se sentir fatigué, affamé, on développe des rides, on a un problème hormonal, par exemple. Et surtout, il y a un paquet de maladies qui sont dépendantes de ça. Hormis les diabètes, je le précise encore. Et là, ce qu'elle nous invite à découvrir, c'est que même pour tout un chacun, manger du sucre, c'est normal, le corps en a besoin, mangeons-en. Mais mangeons-en de façon intelligente. Et par exemple, savez-vous que lorsqu'on mange les aliments au cours du repas de telle façon, ça a une incidence sur la glycémie? Par exemple, si vous mangez du poulet avec du riz et un dessert, ben, c'est sûr que le glucose du riz, le glucose du dessert, vous allez avoir un pic forcément. Il y a moyen d'éviter ça. C'est en ajoutant des fibres. C'est tout bête. C'est-à-dire que si vous commencez votre repas avec des légumes verts, par exemple, et avec du vinaigre, parce que alors ça, c'est carrément un produit magique que les diabétiques connaissent bien, vous allez pouvoir manger votre poulet, puis votre riz, idéalement, et vous ne ferez pas le pic de glucose. C'est fou quand même. Moi, ça m'a complètement passionnée. Et il n'y a pas que ça, hein. Et ce sont des propos scientifiques. Et moi qui aime bien manger un petit dessert de temps en temps, je m'en prive plus. Alors, une petite salade, un petit peu de vinaigre, ça va empêcher le glucose. Si vous avez faim l'après-midi et que vous avez envie d'une banane, prenez donc une cuillère d'œufs, et là je vais le dire, vous allez crier, mais je vous jure que c'est vrai, prenez donc une cuillère de beurre de cacahuète sans sucre. Mais parce que les fibres que vous allez trouver là-dedans vont permettre au glucose de ne pas provoquer ce pic que vous connaissez et qui s'enchaîne, etc., etc. Bref, c'est vraiment un livre passionnant. J'ai envie de vous en faire écouter un extrait. Ça s'appelle « Faites votre glucose révolution ». Vous pouvez trouver ça sur tous les catalogues. C'est écrit, mais alors son nom est absolument imprononçable, alors je ne vous le dirai même pas. Écoutons un extrait.
La plupart du temps, nous nous focalisons sur ce qu'il faut et ne faut pas manger. Mais qu'en est-il de notre façon de manger? Il s'avère qu'elle a un impact majeur sur la régulation de notre glycémie. À repas identiques, c'est-à-dire composés des mêmes aliments et donc des mêmes nutriments et du même nombre de calories, l'impact sur notre organisme peut considérablement varier selon la façon dont nous mangeons ce repas. J'ai été stupéfaite lorsque j'ai découvert les articles scientifiques sur le sujet. Un article en particulier a retenu mon attention. Publié par l'Université Cornell aux États-Unis en 2015, il démontrait que si nous mangeons les éléments d'un repas, féculents, fibres, sucres, protéines et graisses, dans un ordre précis, nous réduisons le pic de glucose global de 73% et le pic d'insuline associé de 48%. Ceci est vrai pour chacun de nous, que l'on soit diabétique ou non. Quel est donc ce bon ordre? Il est le suivant. Les fibres d'abord, les protéines et les graisses ensuite, les féculents et les sucres en dernier. D'après les chercheurs, l'impact de cet enchaînement est comparable aux effets des médicaments prescrits aux diabétiques pour limiter les pics de glucose. En 2016, une surprenante étude en apporta une preuve encore plus éclatante. Pendant 8 semaines, deux groupes de diabétiques de type 2 suivirent la même alimentation, l'un mangeant les aliments dans le bon ordre et l'autre comme il le souhaitait. Le premier groupe enregistra une baisse significative de son taux d'HbA1c, la mesure d'hémoglobine glyquée expliquée en deuxième partie, signe d'un recul du diabète de type 2. L'autre groupe, qui mangeait exactement les mêmes aliments et le même nombre de calories, mais sans ordre précis, n'observa aucune amélioration de son état. Ce fut une découverte révolutionnaire. L'explication de ce phénomène surprenant est à chercher du côté de notre système digestif. Pour bien comprendre, nous pouvons essayer de le visualiser ainsi. Notre estomac est un évier et notre intestin grêle, le tuyau d'évacuation. Tous les aliments que nous mangeons atterrissent dans notre évier, puis s'évacuent par le tuyau, où ils sont décomposés avant de passer dans le sang. Chaque minute, en moyenne, 3 calories transitent depuis l'évier vers le tuyau. Ce processus est appelé « vidange gastrique ». Si les glucides, les féculents ou les sucres sont les premiers à parvenir dans l'estomac, ils transitent très rapidement vers l'intestin grêle. Ils sont alors décomposés en molécules de glucose qui passent tout de suite dans le sang et provoquent un pic de glucose. Plus nous mangeons de glucides et plus nous les mangeons vite, plus l'afflux de glucose est massif et plus le pic de glucose sera élevé. Supposons que notre assiette soit composée de pâtes et de légumes, disons du brocoli, j'adore le brocoli, et que nous mangions d'abord les pâtes, puis les brocolis. Les pâtes, qui sont des féculents, se transforment en glucose et sont rapidement digérées. Ensuite, le brocoli flotte au-dessus des pâtes en attendant son tour pour s'évacuer dans le tuyau. En revanche, si nous mangeons d'abord les légumes et ensuite les glucides, la situation change radicalement. Commençons par le brocoli, riche en fibres comme la plupart des légumes. Comme nous l'avons vu, notre système digestif ne décompose pas les fibres en glucose. Celles-ci s'évacuent lentement, intactes. Mais ce n'est pas tout. Les fibres possèdent 3 super-pouvoirs. Premièrement, elles réduisent l'action de l'alpha-amylase, l'enzyme qui décompose l'amidon en molécules de glucose. Deuxièmement, elles ralentissent la vidange gastrique. En présence de fibres, les aliments transitent plus lentement de l'évier au tuyau. Et troisièmement, elles tapissent l'intestin grêle d'un gel visqueux qui freine le passage du glucose dans le sang. Chacun de ces mécanismes contribue à ralentir la décomposition et l'absorption du glucose atterrissant dans l'évier après les fibres, ce qui a pour effet de lisser la courbe de notre glycémie. L'impact des glucides consommés après les fibres sur notre organisme est atténué. Nous pouvons prendre le même plaisir à les déguster en subissant moins de conséquences négatives. Manger d'abord les légumes, les protéines, puis les glucides ralentit considérablement la vitesse du passage du glucose dans le sang, ce qui lisse le pic de glucose lié à ce repas.
Bon, écoutez, je sais qu'on nous sommes envahis de suggestions comme celle-ci, tout ça. La fille qui vous en parle pourrait vous en parler très longtemps. Je pense que j'ai tout essayé. Mais ça, ce que j'aime bien dans ce discours-là, c'est qu'on ne parle pas de régime. On parle de santé et elle dit les choses vraies, comme par exemple ce qu'on nous vend comme des produits santé. Quand vous regardez le rapport, vous savez, sur la petite étiquette, entre le glucose et les fibres, quand vous voyez 25 de glucides puis 1 de fibres, ben je peux vous dire que ça, c'est le pic de glucose assuré, quoi. Et pourtant, c'est vendu comme un produit santé. Alors, voilà, écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Ça s'appelle « Faites votre glucose révolution », écrit par Jessie Inchospé. Elle a créé un compte Instagram qui s'appelle Glucose Goddess, G-O-D-D-E-2-S. C'est un mot qui sonne bizarre en français, mais en anglais, apparemment, ça ne sonne pas si bizarre que ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, elle a un compte Facebook, elle a tout ça. Les livres existent sur papier et ils existent sur les plateformes de livres audio. Je suis contente d'avoir parlé de ça. Il n'y a pas que des romans ou des essais, finalement. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Bon, j'ai perdu ma page. Mais ça fait rien, je vais la retrouver. On passe au chapitre des nouveautés, mes amis, avec un premier livre dont je n'ai écouté pour l'instant qu'un extrait. Mais il faut dire que j'aime la plume de son autrice. J'aime Marie Vareille. Je me souviens de Désenchantée ou encore de La dernière allumette. C'est une plume, moi, que j'aime beaucoup. Celui-ci vient de sortir le 11 mars dernier. Nous qui avons connu Solange. Le jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les Mirabelles. Nous sommes en Corrèze, en France. Célestine grandit dans la ferme familiale. Elle veut réussir ses études. Elle veut échapper à la vie de paysanne ou de paysanne qui l'attend. Alors qu'en même temps, à Cadiran, en Gironde, il y a une jeune femme qui s'appelle Solange, qui est internée, c'est le mot, dans une école de préservation pour jeunes filles, où sont envoyées des adolescentes qui sont jugées déviantes. Ces deux jeunes femmes vont se réunir et vont être liées par un secret. On se demande pourquoi Solange déteste autant Célestine. Comment Célestine a-t-elle pu commettre l'irréparable ? C'est tout c'est le but, c'est le cœur de ce livre-là que je vous recommande, que je vais lire, que je vais écouter. C'est sûr, nous qui avons connu Solange de Marie Vareille et lu par Lara Suyeux, S-U-Y-E-U-X, dont voici un extrait.
Je courais après les grives, pieds nus et sales dans les champs. Je relevais mes jupes pour sentir les herbes folles fouetter mes mollets. J'inspirais à grandes goulées l'horizon azur et les premiers rayons du soleil. C'était l'enfance et la liberté. C'était la joie. Personne ne m'avait prévenu que tout cela s'évaporerait un jour dans le grand ciel changeant du temps qui passe. Aujourd'hui, alors que je suis la vieille dame aimable de la chambre 145 à l'EHPAD des Lilas, personne n'imaginerait que j'ai pu assassiner un être humain de sang-froid. Mais il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est Solange. Les années ont passé depuis Solange. Tant d'années que même moi, qui ai appris à évaluer le temps qui s'écoule en années avant et après Solange, je ne sais plus précisément combien. Je sais, en revanche, qu'aujourd'hui, j'ai 107 ans. On me l'a dit au déjeuner, avant de me faire souffler une bougie sur un marbré au chocolat industriel. 107 ans. C'est autant d'années qu'il aura fallu pour construire Notre-Dame. J'ai traversé le siècle. Comme on traverse un océan et je suis arrivée en terre étrangère. Solange. De toutes celles que j'ai volées à Jeanne, il me manque la dernière lettre de Solange, enfin je crois. J'ai trouvé une enveloppe vide sur laquelle elle avait écrit « Jeannette » de son écriture nerveuse et irrégulière. Le soir de l'incendie, Jeannette. Une enveloppe vide, dont je n'ai jamais su si la lettre qu'elle contenait avait disparu, mais si ce n'est pas moi qui l'ai dérobée comme toutes les autres, alors qui ? Si Solange n'avait pas eu le temps de la rédiger, ou si elle y avait finalement renoncé, les heures de ma vie dilapidées à faire des conjectures sur cette enveloppe vide se comptent par centaines. Il est évident que je vais bientôt mourir. Personne n'ose l'évoquer. Tout le monde le sait. Tous les soirs, je m'endors en ignorant si je me réveillerai. Je n'aime pas l'idée que la vérité soit enterrée avec moi. Lis-moi jusqu'au bout et tu comprendras pourquoi, ma biquette. C'est à toi que j'ai décidé de me confier au sujet de Solange et de la nuit où le feu s'est déclenché. Et surtout, n'oublie pas, quoi que te raconte Jeanne, même si elle a toujours eu des doutes au sujet de l'incendie de la Grange Bleue, qui n'en a pas eu. Elle ne sait rien. La vérité sur cette nuit du 16 août 1952, cette nuit où Solange est morte et où j'ai cessé d'aimer les Mirabelle, il n'y a que moi qui la connais.
Comme dirait mon ami Mathieu, qui m'épaule à faire cette émission, elle, on l'écoute. Formidable, hein? Prendre le temps de faire des silences et surtout d'y avoir personne derrière pour les remonter, les silences. Parce que ça, ça arrive quelquefois dans les mauvais studios de laisser le temps au temps et de laisser les mots aux mots, de laisser la résonance. Et puis on sent, elle a une voix jeune, cette femme. Mais on sent que celle qui parle à 100, je ne sais plus combien, 102 ans, elle le dit, ou 107, je ne sais plus. C'est vraiment fantastique. Ça, c'est du grand, grand art de lecture. Et je vais me ruer sur ce bouquin pour le glisser entre mes oreilles. Vous pouvez en être sûr. Je vais peut-être vous en rappeler le titre, « Nous qui avons connu Solange » de Marie Vareille. Celle qui, la si bonne narratrice là, qu'on a entendue, c'est Lara Sueux. C'est sorti le 11 mars dernier, ça dure 10h40. Et attention, c'est pas juste après hein, une espèce de polar où on va savoir ce qui s'est passé et puis qui a tué, etc. Non, non, c'est vraiment aussi une histoire sur un petit peu l'histoire de France, sur la façon dont nos grands-parents ont vécu jusqu'à nos jours, puis des grands-parents agriculteurs, que ce soit au Québec ou en France, ça vivait de la même manière. Hein. Et c'est vraiment un livre avec apparemment plein de suspense et de rebondissements à travers les destinées de 4 générations de femmes puissantes. Alors, l'évolution de notre monde depuis un siècle. Et elle nous le rappelle, ce que nous devons tous à la persévérance et au courage de nos aînés. Nous qui avons connu Solange. Un autre livre aussi que j'ai hâte de me glisser entre les oreilles parce que l'extrait que vous allez entendre m'a vraiment envie d'en entendre plus. Ça s'appelle « Une vie si lointaine » de M.L. Stedman. C'est lu par Samuel Charles. Ça, c'est sorti le 11 mars dernier. Ça nous emmène en Australie occidentale en 1958 avec la famille McBride qui vivent à Meredith Downs dans une ferme ovine de 500 000 hectares au cœur de l'Outback. Sur une route déserte, le patriarche Phil McBride dévie de sa trajectoire dans son camion. Il dévie pour éviter un kangourou. C'est la vie de toute la famille qui va voler en éclats. Et ce qui est formidable dans ce livre-là, nous dit-on, c'est qu'au lieu de laisser le temps faire son œuvre et de leur apporter consolation, le destin va revenir hanter cette famille dans une succession de coups du sort. Il y en a un seul, Matt, qui va sortir, non pas indemne, mais vivant de cet accident-là, c'est le Benjamin des McBride. Et il se retrouve, ce jeune garçon-là, plus adulte, contraint de choisir entre amour et devoir, entre sacrifice et bonheur. À travers les vies de quelques âmes isolées, chacune cherchant refuge face aux tempêtes de l'existence, M.L. Stedman explore comme nul autre les liens qui fédèrent une famille, une communauté et signe un roman époustouflant sur le temps, la résilience et le dévouement dont nous sommes capables pour protéger ceux que nous aimons. La vie d'une lectrice sur Babelio, j'aime bien faire ça de temps en temps quand je n'ai pas eu le temps de jeter un œil ou une oreille sur le bouquin, ou du moins pas suffisamment. Elle dit « Une vie si lointaine est un roman magnifique, empreint de beaucoup d'humanité. Les personnages sont beaux, il y a du suspense, il y a des péripéties, une écriture qui vous fait tourner les pages rapidement, par les oreilles aussi. J'en redemande, dit-elle, dépaysement garanti, un paysage aride et grandiose par sa faune et sa flore. Je vous le conseille. D'ailleurs, la faune et la flore, et tout ce qui s'ensuit, c'est très clair dans l'extrait qui suit de « Une vie si lointaine ».
Phil McBride savait conduire depuis qu'il avait 7 ans, dès qu'il avait pu atteindre les pédales. Il avait appris à ses fils à conduire vers le même âge, eux aussi. Et une des règles majeures qu'il leur avait inculquées était la suivante. ne jamais se déporter pour éviter un kangourou. Comme il était impossible de savoir dans quel sens l'animal bondirait, mieux valait risquer de péter un radiateur que de perdre le contrôle de son véhicule et de se retourner. Ce fut peut-être un miroitement de chaleur qui amena le père de Matt à confondre, une fraction de seconde, la silhouette d'un kangourou roux mâle d'1,80 m qui se dressait devant lui sur la route, avec celle d'un homme. À l'instant où le pied de Phil s'était levé pour appuyer sur la pédale de frein, son cerveau l'avait averti de son erreur, mais déjà la bétaillère s'était enfoncée dans l'accotement perfide de gravier instable et s'était renversée sur le côté dans un rugissement de métal et de violence, projetant un de ses fils à travers le pare-brise et empalant l'autre sur le levier de vitesse. Phil eut à peine la force d'extraire Warren de la cabine et de le traîner à l'écart. Il aperçut Matt, qui gisait à une plus grande distance du camion, la tête en sang, les membres écartés. Ensuite, il ne vit plus rien. Des vapeurs d'essence recouvrirent l'odeur âcre de la roche, et le bourdonnement de la pompe à vent la plus proche fut noyé sous les bêlements paniqués des moutons, au moment où les roues du camion se mirent à tourner dans les airs, projetant du carburant comme un soleil de feu d'artifice. Il ne fallut que quelques minutes à la vapeur pour s'embraser dans la chaleur et engloutir le véhicule dans un rugissement orangé de flammes, tandis que la fumée noire des pneus en fusion dessinait une échelle qui montait vers le ciel vide et infini. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, les hommes de la famille McBride, l'un à côté de l'autre sur la route poussiéreuse dans du sang qui s'écoulait, tourbillonnait et confluait pour former une unique mare écarlate. Chapitre 2. Quand Sneaky Snook, au volant de la fourgonnette de la poste, tomba sur l'épave du camion sur les confins de Meredith Downs, des moutons étaient éparpillés le long de la route et de la clôture, bêlants et hébétés. On aurait pu pardonner à un témoin de la scène de se croire en présence d'un barbecue macabre. Les barreaux de la bétaillère avaient encagé une bonne dizaine de moutons dont la laine avait roussi, avant qu'il ne soit brûlé vif. Condamné à un supplice sacrificiel, mais répandant une odeur aussi délicieuse que n'importe quelle côtelette d'agneau grillé. Les aboiements du chien du facteur, Lightning, pouvaient donc exprimer de la consternation ou simplement de l'appétit. Par bonheur, cette route était relativement fréquentée pour la région. Il y passait habituellement au moins un véhicule par jour. En réalité, il s'était écoulé moins d'une heure avant que Sneaky ne les découvre, alerté par la fumée. Warren était en sang, mais conscient, appuyé sur un coude. Il ordonna à Sneaky de ramener les moutons et vitupéra quand l'autre fit mine de le déplacer. Matt, parfaitement immobile sur les graviers, tout comme son père à quelques pas, était mort, supposa Sneaky. Il avait une profonde entaille à la jambe et les oreilles couvertes de croûtes de sang. Le facteur se concentra donc sur celui qui parlait encore. Sauver la vie qu'il pouvait sauver, et ainsi de suite. On établit par la suite que Warren souffrait d'une hémorragie du foie, qu'il avait fait jurer et pester jusqu'à ce qu'il perde conscience. Les trois hommes étaient juste assez éloignés du camion pour avoir évité la crémation. « Au moins nous aurons les corps », déclarerait Lorna plus tard. « Au moins nous pouvons les enterrer. »
Ambiance, hein ?
Et là encore, très bien lu par Samuel Charles. Je vous rappelle le titre de ce livre, Une vie si lointaine, de M.L. Stedman. Je pense que c'est une femme. J'avais lu ça dans mes recherches, mais je n'ai pas trouvé à quoi correspondent ces deux lettres M.L. Stedman. Et puis alors, elle nous emmène, j'ai lu d'autres pages du livre, et elle nous emmène faire un voyage en Australie occidentale comme jamais vous n'en ferez. Peut-être, si vous me prenez comme moi jamais l'avion, pour y aller. C'est très, très, très bien fait, très bien écrit, très bien lu. Bref, j'aime les livres audio, hein, surtout quand c'est bien fait comme ça, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien à l'âme, ça fait passer le temps. Je pense, si vous avez, là, j'ai un petit 15 secondes pour vous dire, alors je vais vous le rappeler, si vous avez des amis en ce moment qui sont peut-être malades, des personnes âgées qui sont toutes seules mais qui ont encore de bonnes oreilles, eh bien pensez au livre audio. C'est un compagnon de route absolument formidable. Je m'appelle Clotilde Seille, je suis appuyée par Mathieu Tessier et le balado s'appelle Des livres plein les oreilles. Il est disponible sur toutes les plateformes possibles, y compris YouTube. Ne vous gênez pas et partagez.